الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الانبساط إلى الناس الإمام البخاري رحمه الله تعالى nous mentionne un nouveau chapitre qui s'intitule Être convivial avec les gens. Être convivial avec les gens. الانبساط إلى الناس, le fait d'être convivial avec les gens, fait partie des choses qui découlent de la fraternité en islam. Être convivial avec les gens fait partie des droits de la fraternité, des preuves et des preuves de celle-ci. En effet, celui qui fréquente les gens, qui a de nobles caractères, qui prend de leurs nouvelles lorsqu'il les rencontre, il leur sourit, il leur montre qu'il se réjouit de les voir. Lorsqu'il se sépare, il leur montre que cela lui est lourd. Tout cela fait partie des bons comportements en islam. C'est pour cela que l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce chapitre dans son livre. Quant à celui qui ne se mélange pas aux gens, qui ne fréquente pas les gens, qui ne prend pas de leurs nouvelles, qui ne les salue pas lorsqu'il les rencontre, qui ne donne pas envie d'être à ses côtés, de le fréquenter, de passer du temps avec lui, tout cela est contraire au noble caractère de l'islam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était celui qui avait le meilleur des comportements. Allah azza wa jalla l'a décrit en disant فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Et c'est par quelque miséricorde de notre part que tu as été si doux envers eux. Et si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient éloignés de toi. Donc Allah Azza wa Jalla a décrit son prophète et son messager sallallahu alayhi wa sallam par ses nobles caractères. Et le prophète alayhi salat wa salam nous dit, celui qui fréquente les gens et patiente sur leurs nuisances est meilleur que celui qui ne fréquente pas les gens et ne patiente pas sur leur mal. Et les gens que tu rencontreras sont de caractère et de noblesse différentes. Il y a le bon, il y a le mauvais. Il y a le gentil, il y a le méchant, il y a le véridique, il y a le menteur. Il y a le doux, il y a le rude. Comment vas-tu te comporter avec chacune de ces personnes-là? Et l'islam t'enseigne tout cela. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, va nous montrer ici un exemple concret qui est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah nous dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah. Donc, عن عطاء ابن يسار قال لقيت عبد الله ابن عمر ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا أدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولا يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, nous mentionne ce noble hadith. Selon Atta ibn Yassar, j'ai rencontré Abdallah ibn Amr ibn al-As. Je lui ai alors dit, décris-moi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou informe-moi de sa description, informe-moi de la description du messager d'Allah dans la Torah. Il m'a alors dit, certes, par Allah, il est décrit dans la Torah par des qualités présentes dans le Coran, par des qualités, des attributs, un descriptif présent dans le Coran. On voit ici, ou avant ça, lisons la traduction de la totalité. Ô prophète, nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur et protecteur des illettrés. Tu es mon serviteur et mon messager. Je t'ai appelé celui qui compte sur Allah. Al-Mutawakkil. Il n'est pas dur ni rude, ni tapageur dans les marchés. Il ne répond pas au mal par le mal, mais il pardonne et passe outre. Allah ne l'a pas fait mourir jusqu'à ce qu'il ait réformé le culte par son biais et que les gens aient dit « Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. » Il a ouvert des yeux aveugles, des oreilles sourdes et des cœurs enveloppés. Dans ce hadith, on voit que Atta ibn Yassar a rencontré le noble compagnon Abdullah ibn Amr, radiallahu anhuma. Il l'a donc interrogé. Et ceci est une sunna depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de tirer profit de la rencontre d'avec les gens de science, d'avec les compagnons, puis ceux qui ont les ont suivis avec excellence, puis ceux qui sont venus après eux, et ainsi de suite. Ainsi, lorsque tu rencontres une personne de science, fais ton possible pour tirer profit de ses connaissances, de ses comportements. Na'am, barakallahu fik. Il l'a donc interrogé. Sur quelle chose l'a-t-il interrogé? Sur la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont grandement donné importance à ce chapitre de la religion, à ce chapitre d'un des fondements de l'islam qui est la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez tous que il y a les trois principes fondamentaux qui sont la connaissance d'Allah, car c'est l'être adoré, le but à atteindre et celui pour lequel l'adoration et le tawhid doit être concrétisé. Le second fondement, c'est la connaissance de l'islam, c'est le biais et le moyen par lequel tu atteins Allah Azza wa Jal par cette pratique. Et en dehors, c'est la religion en dehors de laquelle Allah n'accepte aucune autre religion. Et troisièmement, il y a la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car c'est lui qui va nous transmettre tout cela et c'est lui qui a été envoyé pour nous montrer ce noble chemin, nous l'expliquer, nous le détailler, nous l'expliciter. Et lorsque tu apprends à connaître ton prophète et ton messager, il y a plusieurs chapitres. Tu commences par sa généalogie, sa lignée, sa ville, ou plutôt sa date de naissance et son lieu de naissance, ce par quoi il est devenu prophète et messager. Quel était son message? Dans quelle ville il a émigré? Et ainsi de suite. Ceci est un des chapitres de la connaissance du prophète, alayhi salatu wassalam.
et c'est une connaissance majeure. Cependant, parmi les chapitres qui entrent dans la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a sa description physique et comportementale. Il y a sa description physique et comportementale. C'est pour cela que le grand imam At-Tirmidhi, rahimahullahu ta'ala, a écrit un des plus anciens, si ce n'est le livre le plus ancien de Shama'il, Al-Shama'il al-Muhammadiyya, dans lesquels il a décrit le prophète alayhi salatu wa salam. Et les savants ont beaucoup donné d'importance à ce livre et à ce chapitre de la religion. Ainsi, cet homme demande à Abdullah ibn Amr de l'informer de la description du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on trouve également dans la Torah. Et il nous apparaît ici que Abdullah ibn Amr radiallahu anhu avait quelques connaissances des livres anciens. Car il lui a répondu ajal, c'est-à-dire par l'affirmative. Puis il lui a dit wallah, innahu la mawsufun fi at-Tawrah bi ba'dhi sifati fi al-Qur'an. On voit de ces paroles de Abdullah ibn Amr, par Allah, il est décrit dans la Torah par certaines caractéristiques qui lui sont mentionnées dans le Coran. On voit qu'il est savant non seulement de livres anciens, mais également du Coran. Mais également du Coran. Ainsi, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que le meilleur livre de Sirah est Al-Qur'an Al-Azim. Le meilleur livre sur la biographie du prophète alayhi salatu wa salam, c'est le Coran. On nous mentionne un passage que l'on trouve dans Sourate Al-Ahzab. Que l'on trouve dans Sourate Al-Ahzab. Qui est Ya ayyuhan nabi, ô prophète, inna arsalnaka shahidan. Nous t'avons envoyé en tant que témoin, wa mubashira, annonciateur, c'est-à-dire de bonnes nouvelles, wa nadhira, avertisseur. Nous t'avons envoyé en tant que témoin. Les savants ont expliqué cela de deux manières. Premièrement, tu témoignes de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, qu'il a la perfection absolue et donc le seul digne d'être adoré. Shahidan aylillahi bilwahdaniyya. Tu témoignes qu'Allah Azza wa Jal, c'est l'unique, sans associé, nul ne lui est similaire dans sa perfection à travers ses noms, ses attributs, ses actions. Donc, c'est le seul qui mérite l'adoration. Allah nous dit dans son noble livre, « ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ » Ceci est car Allah est la vérité. Et ce qu'ils invoquent en dehors de lui, le faux. Donc Allah est le seul digne d'être adoré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour témoigner de cela. Pour témoigner de cela. Deuxièmement, témoin, c'est-à-dire des actes, des serviteurs, le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate An-Nisa nous dit وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَاُولَاءِ شَهِدًا Et on te fera venir en tant que témoin sur ces gens-là. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en tant que témoin. Deuxièmement, وَمُبَشِّرًا En tant qu'annonciateur de bonnes nouvelles. Ceci pour les gens qui sont obéissants. Ils ont obéi à Allah, subhanah. Ils ont obéi au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont donc adoré d'un culte sincère, en suivant la voie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ces derniers, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'agrément d'Allah. La bonne nouvelle d'un paradis vaste comme les cieux et la terre. La bonne nouvelle du pardon et de la miséricorde de leur Seigneur. Ensuite, wanadhira, en tant qu'avertisseur, c'est-à-dire qu'il avertit les désobéissants de la colère d'Allah, de sa punition et de son enfer. Et le paradis est la récompense des monothéistes. L'enfer est la punition et la sanction des polythéistes. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على ذلك ويدخلنا الجنة كما نسأله عز وجل أن يحفظنا أجمعين من النار. Demandons donc à Allah de nous joindre aux adeptes du paradis et de nous préserver des châtiments et de son enfer. وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ Nous t'avons également envoyé en tant que protecteur pour les illettrés. En tant que protecteur pour les illettrés. Que signifie qu'il a été envoyé en tant que protecteur pour les illettrés? C'est-à-dire ceux qui lui obéissent, suivent sa voie, en adorant Allah seul d'un culte sincère, en se soumettant à sa législation, il se voit protégé et préservé en étant sur cette voie par Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Donc dans le suivi du prophète alayhi salatu wassalam, il y a tout le bien. Il y a la préservation contre le mal. Quant à celui qui sort de sa voie, c'est lui qui se met dans le danger. Qu'Allah n'a pas voulu pour lui dans la religion. Al-Ummiyin. Al-Ummi, c'est celui qui ne lit pas et ne sait pas écrire. Et à cette époque, ce peuple auquel a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance de la lecture ou de l'écriture était exceptionnelle, était très rare. Ce peuple-là est un peuple illettré. Et en cela, le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam culmine à travers la révélation qui lui a été faite. À travers la révélation qui lui a été faite. Comment est-ce qu'un illettré aurait pu trouver ce message, inventer ce message, forger ce message? C'est impossible. Et Allah Azza wa Jal a lancé un défi aux plus éloquents parmi les Arabes qui rivalisaient de poésie, de prose, de poèmes. Mais jamais ils n'ont réussi à amener un Coran semblable. On a déjà ce défi. Jamais ils n'ont réussi à amener 10 sourates semblables au Coran. On a allégé le défi. Jamais ils n'ont réussi à venir avec une courte sourate du Coran, ni même quelques versets. Donc c'est un miracle. C'est un miracle qu'un prophète illettré vienne avec le Coran. C'est pour cela que ça a témoigné de sa véracité, à travers laquelle il était déjà par laquelle il était déjà connu dans son peuple avant même d'avoir reçu la révélation, sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait d'être illettré n'est pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam une imperfection. Du fait que on apprend à lire et écrire, pour quel but? Pour avoir accès à la science, à la connaissance. Mais lui, Allah azza wa jalla, l'a éduqué et lui a donné directement la révélation, sallallahu alayhi wa sallam. Wa hirzan lil ummiyin, anta abdi wa rasuli. Puis, on nous dit, tu es mon serviteur et mon messager. La juxtaposition de ces deux mots a une énorme sagesse. A une énorme sagesse. Il s'agit du juste milieu dans notre considération de la meilleure créature d'Allah, le sceau et meilleur des messagers et des prophètes envoyés, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'on dit huwa Abdullah, ça vient éradiquer toute exagération à son égard et toute acquisition de l'adoration ou de la seigneurie. En d'autres termes, lorsque tu dis que le messager d'Allah est un serviteur d'Allah, ça veut dire on ne peut l'adorer car c'est le serviteur d'Allah. On adore le maître et non pas le serviteur. Et le maître, c'est Allah, le Seigneur des mondes. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le serviteur du maître. Et cela est complètement et totalement louable et le rang le plus élevé que puisse atteindre une créature, c'est d'être le serviteur d'Allah. Donc, tu retiens cela. C'est un serviteur d'Allah, on ne l'adore pas. On n'exagère pas à son sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tutruni, n'exagérez pas dans mes éloges. N'exagérez pas dans mes éloges. » Mais tu ajoutes « Wa rasouli » et c'est son messager. C'est le serviteur d'Allah et son messager. Et lorsque tu dis « c'est son messager », que cela signifie-t-il? Que tu ne le démens pas. Il transmet de la part d'Allah. Tout ce qu'il nous dit, tout ce dont il nous informe, c'est la vérité. C'est la vérité. Si c'est le messager, tu dois croire en l'ensemble de ses informations. Que ce soit les informations du passé, de son vivant ou futur. Que ce soit les détails du jugement dernier ou au paradis et ainsi de suite. Que ce soit les informations au sujet de la description d'Allah, de ses noms, de ses attributs. Tout cela, tu en attestes et en témoigne. Deuxièmement, tu dois obéir à l'ensemble de ses ordres, parce que c'est le message d'Allah. Et ce que le message d'Allah ordonne, c'est comme ce qu'Allah a ordonné. Troisièmement, tu dois t'éloigner de tout ce qu'il nous a interdit. Car ce que le message d'Allah interdit, c'est comme ce qu'Allah a interdit. Et quatrièmement, tu dois veiller à n'adorer qu'Allah, et cela que comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à partir du moment où tu témoignes que c'est le messager d'Allah, tu crois en l'ensemble de ses informations. Tu le suis et tu adores Allah que comme il te l'a montré. Par lui, Allah a parachevé et complété sa religion. Par lui, Allah nous a fait distinguer le chemin du bien du chemin du mal. Tu n'as qu'à suivre le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et surtout ne jamais innover dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc c'est le serviteur d'Allah, on ne l'adore pas. Mais son messager, on le croit, on le suit et on lui obéit. Puis, avec ces deux termes, Abdullah wa Rasul, tu sortiras de la négligence de son rang et tu sortiras de l'exagération. Tu seras sur le juste milieu. Tout comme l'islam est le juste milieu d'entre l'ensemble des religions, la voie de la sunna est le juste milieu d'entre l'ensemble des branches. Puis on nous dit « Sammaytuka al-mutawakkil » Je t'ai appelé « al-mutawakkil » Parmi les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'il y a Muhammad, Ahmed, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, et ainsi de suite. Al-Mutawakkil, que signifie ce terme? Al-Tawakkul, c'est le fait de pleinement compter sur Allah. En lui abandonnant notre affaire, le cœur plein de confiance en lui. Quant à l'obtention d'un bien, ou la préservation d'un mal, face à un mal. C'est ça, être tawakkul. Tu comptes sur Allah. Tu abandonnes ton affaire à Allah. Et lorsque tu fais cela, tu as le cœur plein de confiance quant à l'acquisition de ce que tu souhaites, ou la protection face à ce que tu crains. Et en faisant le tawakkul, tu ne dois pas omettre de faire les causes, car Allah a rattaché les effets aux causes. Et c'est lui le créateur des causes et des effets. Il n'en est pas dépendant. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal veut que la cause ou que l'effet fasse défaut à la cause, il le décrète. Et lorsqu'il veut que l'effet ait lieu, il le décrète également. C'est lui qui a créé le feu et en a fait qu'elle brûle et qu'il brûle et détruise. Mais c'est lui qui a décidé qu'il n'ait pas cet effet sur le prophète Ibrahim alayhi salam. Barakallahu fikum. Donc, tu fais les causes, mais tu comptes pas sur la cause, tu comptes sur Allah subhanahu wa ta'ala, et tu lui abandonnes ton affaire. Tu comptes sur Allah azza wa jal, mais tu ne délaisses pas les causes. Ceci vient à l'encontre de la religion, de la législation d'Allah, et à l'encontre de la raison saine.
Il faut faire les causes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui a concrétisé le tawakkul. Pourtant, lorsqu'il sortait de chez lui, il faisait ad-du'a, bismillah. Il cherchait l'aide d'Allah. Tawakkaltu ala Allah. Je place ma confiance en Allah. J'abandonne mon affaire à Allah. D'accord? Et il travaillait pour chercher sa subsistance et nourrir ses proches. Et lorsqu'il y avait la guerre, il portait des maada, une armure. Il portait un casque pour se protéger. Bien qu'il soit celui qui compte le plus sur Allah, car c'est comme ça la religion. C'est compter sur Allah tout en faisant les causes. Et un homme a demandé au prophète, alayhi salat wa salam, est-ce que j'attache ma chamelle ou bien est-ce que je compte sur Allah? Et il lui a dit, attache-la, puis place ta confiance en Allah. C'est-à-dire que la confiance en Allah va également avec les causes. Imaginez un homme qui dit, moi j'ai confiance en Allah, alors je ne travaille pas, je reste assis, ma subsistance viendra. Et l'autre dit, moi j'ai confiance en Allah, je veux 5 enfants, mais je reste chez moi, je ne me marierai jamais. Et ils disent par exemple, Allah est capable s'il veut me donner un enfant. Subhanallah, Allah Azza wa Jal est parfaitement capable. Mais il a décrété que les choses ne se passaient pas comme ça. Et lorsqu'il décide, de par sa science, sa sagesse et sa volonté, ça se passe différemment. Il a décidé que Adam, le premier homme, le premier humain, allait naître sans père ni mère. Et il a décidé que Isa alayhi salam soit également un miracle qui va naître d'une mère sans père. Il a décidé que l'ensemble des autres viendront d'un père et d'une mère. Donc, il ne faut pas se tromper dans le domaine des causes et du tawakkul. Certains pensent que le tawakkul, c'est délaisser les causes. D'autres comptent sur les causes et n'ont pas de tawakkul. Quel est le juste milieu? Compter sur Allah en faisant les causes. Compter sur Allah tout en faisant les causes. Barakallahu fikoum. Il laboure son champ, il plante ses graines, il arrose son champ et il compte sur Allah pour la pousser, pour les cultures, pour la subsistance, pour les récoltes, pour la nourriture, pour la vente, pour... Il compte sur Allah. Il travaille le champ, ça c'est faire les causes. Puis il fait dua pour qu'Allah donne la pluie. Il fait dua pour avoir une bonne production. Sammaytuka al-mutawakkil. At-tawakkul, tu en as besoin dans toute ta vie, au quotidien. Du moment où tu sors de chez toi, au moment où tu rentres chez toi. Tu as besoin pour aller à la mosquée. Il faut placer ta confiance en Allah. Tu as besoin pour aller chercher la science de tawakkul. Il faut compter sur Allah. Tu as besoin de tawakkul lorsque tu sors pour travailler. Tu as besoin de compter sur Allah. Tu as besoin de tawakkul pour délaisser les péchés. Celui qui travaille dans le porc, celui qui travaille dans l'alcool, celui qui travaille dans le haram, il transporte du haram, il vend, il achète du haram. Naam. Tous ces gens-là, pour arrêter, il leur faut quoi? Il faut tawakkul, il faut compter sur Allah Azza wa Jal. Car il y a la peur de la pauvreté, la peur de ne pas trouver, la peur de... Mais en comptant sur Allah, tout cela est dissipé. Pour arrêter les péchés, il faut du tawakkul. Il faut une force. Sinon, la passion s'attise et brûle la bonne intention et brûle avec les hasanat et attise et augmente le feu du péché, de la désobéissance d'Allah et de sa colère. Wal-i'yadu billah. Fanas'alullah azza wa jal ayaj'alana minal mutawakkilin. Tu as besoin de tawakkul pour éduquer tes enfants. Tu as besoin de tawakkul. Na'am. Pour éduquer tes enfants. Il y a besoin de tawakkul du matin au soir. Il y a besoin de tawakkul. Barakallahu fikoum. Laysa bifadhin wala ghalid. Il n'est pas rude ni dur. Il n'est pas dur ni rude. Voici la partie témoin dans le hadith pour laquelle l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a mentionné ce hadith. Il n'est pas dur, il n'est pas rude. Il est convivial. Il dégage une bonne humeur au sein de ceux qui l'entourent. Il tire les cœurs vers lui et les fait converger. Ainsi, ils acceptent son message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux. Toute personne qui le rencontrait, de par sa prestance, le craignait au premier abord. Et dès qu'il le fréquentait, il l'aimait et aimait sa rencontre. De par ses comportements, la douceur, la bienveillance, il se peut que l'un de ses ennemis déclarés arrive et ait dans le cœur la plus forte inimitié à son égard, au point qu'il dise « Il n'y a personne que je hais plus que Mohammed. » Et dès qu'il le rencontre et qu'il voit sa description physique et comportementale, son endurance, sa bienveillance, sa sincérité et sa dévotion, en un court laps de temps, il devient la personne qu'il aime le plus au monde. Naam. Tout cela de par ses nobles caractères. Il n'est pas dur, il n'est pas rude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, on a déjà mentionné le verset, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est par quelques miséricordes de notre part que tu as été si doux envers nous. Donc si ça, il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet duquel on nous dit qu'il a été si doux envers eux, et que dans le cas contraire, les gens se seraient éloignés de lui. Alors que c'est le meilleur, parmi les meilleurs. Que dire alors de nous? Si on est dur et on est rude, les gens s'éloigneront de nous. Les gens n'accepteront pas le message de l'islam de nous. Naam, ça ne sera pas pour une excuse, mais là on parle de nos personnes à nous. Donc, il faut se parer des nobles caractères pour pouvoir transmettre et montrer la splendeur de l'islam, sans quoi elle sera l'image d'une chose précieuse qui est dans un récipient dont le verre n'est pas propre. Dont le verre n'est pas propre. Tu peux mettre la plus belle des lanternes, si le verre n'est pas propre, la lumière ne sera pas étincelante et ça n'éclairera pas le chemin des gens. Laysa bifadh wala ghalidh. Il n'est pas dur ni rude. Cela vient de la douceur du cœur. Pour avoir la douceur des mots, la douceur des gestes, naam, il faut avoir la douceur du cœur, car c'est le maître des membres. Ala inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al-jasad kullu. Il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est bon, tout le reste du corps le sera. S'il est corrompu, tout le reste du corps le sera, c'est le cœur. Donc, il faut adoucir le cœur. Et parmi les moyens d'adoucir le cœur, il y a dhikrullah, il y a le fait de beaucoup mentionner Allah. Parmi les moyens d'adoucir le cœur, la lecture du Coran avec méditation. Parmi les causes pour adoucir le cœur, le jeûne. Parmi les causes pour adoucir le cœur, et c'est la première, et c'est la majeure, c'est la connaissance d'Allah à travers ses noms, ses attributs. Il y a aussi la prière de nuit, il y a aussi le fait de fréquenter les gens pieux, il y a l'étude de la science, il y a le rappel de la mort, il y a la visite des malades, il y a la visite des tombes, des cimetières, des morts, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de causes qui adoucissent le cœur. Naam. Il y a le fait de s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Naam. Le fait de s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Tout cela adoucit le cœur. Et ceux qui méritent le plus notre douceur sont ceux avec qui en général on en a le moins. Naam. Bien évidemment, vous l'aurez compris, il s'agit de la mère et du père. Il s'agit de la mère et du père. Ils sont ceux qui méritent le plus notre douceur. On aura des réflexes à avoir de la douceur envers tel enfant du voisin, envers tel neveu. Naam. Alors qu'en réalité, ceux qui méritent le plus notre douceur, ce sont nos parents qui nous ont portés, qui nous ont enfantés, qui se sont sacrifiés pour nous, qui ont travaillé pour nous, qui ont pleuré pour nous, qui nous ont aimés avant notre venue au monde. Naam. Ceux parmi les seuls au monde qui souhaitent qu'on devienne meilleur qu'eux. Naam. Certains, si tu deviens meilleur qu'eux, ils te jalousent au point de te jeter le mauvais œil, au point de souhaiter le mal pour toi, au point d'inventer des calomnies à ton égard parce qu'il ne veut pas que tu sois égal à lui, à plus forte raison, le dépasser. Quant à tes parents, eux, ils veulent que tu sois le meilleur, tu les dépasses, eux et leurs ancêtres, eux et l'ensemble des habitants de la terre. Ils méritent la douceur, ils méritent la tendresse, la compassion, dans les mots, dans le comportement, dans le regard, dans l'humilité. Naam, certains respectent tellement leurs parents qu'ils ont du mal à les regarder dans les yeux plus de quelques secondes. Naam. Parmi ceux qui méritent le plus notre douceur, il y a l'épouse, il y a les enfants, il y a les faibles, naam, il y a les employés, et ainsi de suite. Et le fait de dire qu'ils méritent ta douceur, ça ne veut pas dire ne jamais utiliser la rigueur lorsque ceci est la sagesse. Mais il faut être sage, et la base c'est la douceur.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Al-rifqu ma kana fi shay'in lazana wa ma nuzi'a min shay'in lashana. La douceur n'est pas mise dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse, et on ne la retire pas d'une chose sans qu'elle ne l'enlaidisse. Donc ceci est un grand comportement et c'est une des plus grandes causes qui amènent les gens à l'islam. Allah nous dit dans le Coran, lorsqu'il envoie Moussa et Haroun à Fir'aoun, le pire, « Idhaba ila Fir'auna innahu tara faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. » Rendez-vous auprès de Pharaon. Il a certes transgressé. Dites-lui des paroles douces. Peut-être, peut-être, Naam, croira-t-il, peut-être se souviendra-t-il. Subhanallah. Allah sait qu'il ne va pas croire, mais il éduque ses prophètes et c'est une éducation pour nous par la suite. La douceur dans le prêche, dans l'enseignement, dans la prédication, dans l'éducation. Barakallahu fikum. Wala sakhabin fil aswaq. Il ne fait pas partie de ceux qui crient dans les marchés, qui élèvent leur voix. Ceci est un comportement blâmable en islam. Naam. Le fait d'être tapageur, d'élever la voix, de crier sans nécessité, sans sagesse, ceci est blâmable en islam. Naam. Certaines personnes parlent fort en public. Elles sont dérangeantes, elles sont malaisantes. Naam. Il faut prendre l'habitude de baisser le son de la voix et d'avoir un bon comportement. Certains parmi les sahabes, en présence du prophète alayhi salatu wasalam, parlaient tellement bas qu'on devait leur demander de répéter plusieurs fois. On ne te demande pas de faire cela, mais n'élève pas la voix sans nécessité. Nécessité comme quoi? Nécessité pour appeler une personne qui est lointaine. Nécessité quand tu fais la khutbah. Tu élèves la voix, c'est une sunna. Wa hakada. Quand c'est la sagesse. Et parfois, en abaissant le son de la voix, les gens t'écoutent mieux et font plus d'efforts pour pouvoir te comprendre. Parmi, et dans le Coran, innan karal aswat, la sautul hamir. Parmi les paroles, parmi les voix les plus blâmables, il y a le son de l'âne. Et on nous dit au marché. Ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mêlait aux gens et fréquentait les gens. Naam. Il fréquentait les gens, il allait dans les endroits où les gens se réunissent pour la da'wa ou pour ses affaires personnelles. وَلَا يَدْفَعُ سَيِّئَةِ بِسَيِّئَةِ وَلَا يَدْفَعُ بِسَيِّئَةِ سَيِّئَةَ. Et il ne repoussait pas le mal par le mal, mais il pardonnait et excusait. Allah dit dans Sourate Fussilat, اِدْفَعْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Repousse par ce qu'il y a de meilleur. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Mais tu verras que celui avec qui tu étais, avec lequel il y avait de la haine, naam, deviendra un ami chaleureux. Pas un ami simple, un ami chaleureux proche. Mais est-ce que tout le monde a cette caractéristique? Est-ce que tout le monde peut réussir à faire ça? On te fait du mal, tu repousses avec le bien. Subhanallah. Est-ce que tout le monde peut faire ça? Non. Allah nous dit ensuite: وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُوَ حَظٍ عَظِيمٍ. Ces caractéristiques-là ne s'atteint qu'avec l'endurance, qu'avec ceux qui ont reçu l'éducation de la part d'Allah, une grande part de sa part, une grande part émanant de lui. Donc, c'est une éducation des gens de l'excellence. Certains parmi les plus prédécesseurs, lorsqu'on parlait sur eux, ils faisaient un cadeau. Ou lorsqu'on leur nuisait, ils tentaient de faire du bien pour entrer dans la sphère de l'excellence. Ils essayaient de faire du bien à ceux qui leur faisaient du mal. Ça mettait dans la gêne ceux qui faisaient du mal. Et ça faisait même se repentir certaines personnes. Car des fois, il y a de la noblesse enfouie sous la poussière de certaines personnes qui font du mal. Mais d'autres n'ont pas cette noblesse d'esprit de réfléchir, de se remettre en question. S'ils font du mal et que tu leur fais du bien, ils ajoutent et ils continuent le mal. Ces gens-là, il n'est pas sage de leur faire du bien. Ou de les excuser. Comme a expliqué Ibn Uthaymeen, rahimahullah, le pardon n'est pas à donner à tout le monde, même si c'est la base. Mais il pardonne, il absout et il pardonne. Donc le prophète sallam laissait passer. Mais vous vous souvenez de la femme qui a tenté d'empoisonner le prophète alayhi salatu wassalam? Il n'a pas voulu prendre son droit, il l'a excusé. ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم بالملة العوجاء. Puis, ماذا؟ On nous dit et ماذا؟ نعم. Et Allah n'a pas repris son âme. Allah le Très-Haut n'a pas pris son âme jusqu'à ce qu'il ait réformé. Jusqu'à ce qu'il ait réformé ماذا ce cette voie. Naam, jusqu'à ce qu'il ait réformé cette voie. Et ce qui est voulu par cela, c'est que c'est le dernier prophète et messager. Donc il n'est pas revenu de son message, de son prêche à ce peuple qui était plongé dans les ténèbres du politisme, de l'injustice et de l'ère de l'ignorance, tant qu'il ne les a pas Mada fait revenir à la vérité par la science, par la lumière, par le tawhid, par la science, par la connaissance. Le peuple auquel a été envoyé le prophète sallam, le monde dans lequel le prophète sallam est venu, était un monde sombre où Allah a détesté presque l'entièreté de ses habitants, sauf une minorité parmi les gens du livre. Ils étaient tous dans le polythéisme, dans l'égarement, dans l'ère de l'ignorance, sauf une minorité parmi les gens. À ce peuple-là, le prophète alayhi salatu wassalam est venu et son but était de les réformer en les invitant à quoi? Son but était de les corriger. Il a commencé par quoi? Son but était de les sortir des ténèbres. Quel moyen il a entrepris? Bi'an yakulu la ilaha illallah. Ça, c'est le trésor. Ça, c'est la clé de la réforme. Subhanallah. D'entre tous les moyens, le prophète sallam a utilisé ce moyen-là. C'est le tawhid qui réforme les peuples. C'est le tawhid qui donne la science au peuple. C'est le tawhid qui fait sortir les gens de l'ignorance. C'est le tawhid qui fait sortir les gens de l'injustice. Donc, il leur est venu avec la ilaha illallah. C'est ça le prêche des prophètes, c'est ça le prêche des messagers. Et lorsque on dit qu'il, jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, c'est-à-dire dire la ilaha illallah avec le cœur et avec la langue. Pas dire la ilaha illallah avec la langue et contredire la ilaha illallah avec les membres. C'est-à-dire avoir comme conviction ferme, comme croyance ferme, que nul n'est digne d'être adoré si ce n'est Allah. Puis avec les membres d'adorer Allah seul sans jamais rien lui associer. Cette science est obligatoire, sa mise en pratique est une condition pour être musulman, puis pour être au paradis, dans l'au-delà. وَيَفْتَحُ بِهَا Et avec elle, c'est-à-dire avec la ilaha illallah, avec cette clé, il ouvrira des yeux aveugles. Donc là, il est là, redonne la vue à l'aveugle, redonne la clairvoyance à l'aveugle. Wa adhanan summa, et des oreilles sourdes. Là, il est là, redonne l'ouïe aux oreilles sourdes. Wa quluban rulfa, et des cœurs cadenassés, fermés. Là, il est là, ouvre ce verrou. Ouvre ce cadenas. Donc là, il est là, c'est la parole la plus bénie. C'est la meilleure des paroles prononcées par un prophète, comme c'est vu dans le hadith. Il nous faut étudier cette parole, il nous faut nous parer par cette parole et l'appliquer jusqu'à obtenir de la part d'Allah Azza wa Jal le seul digne d'être adoré, la félicité. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pour finir, Al-Muawiyah radiyallahu anhu قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به سمعته يقول أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إذا تبعت الريبة في الناس أفسدتهم فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم. معاوية رضي الله عنه ce noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: j'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam des paroles dont Allah m'a permis de bénéficier. Notamment, j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: si tu es suspicieux avec les gens et tu poursuis cela, tu les corrompras. Donc je ne manifeste pas de suspicion à leur égard afin de ne pas les corrompre. Celui qui s'éloigne des gens. Donc avant ça, Muawiyah radiallahu anhu nous dit qu'il a entendu une parole du prophète alayhi salatu wa sallam. Et il nous dit qu'Allah a mis beaucoup de baraka dans cette parole et il lui a fait tirer profit de cette parole. Naam. Il a entendu qu'il ne fallait pas suivre les choses douteuses concernant les gens. Il ne faut pas émettre des doutes sur les gens sans preuve solide. Car si tu suis ces mauvais soupçons, tu vas les anéantir. En d'autres termes, tu vas accuser des gens à tort, tu vas les suspecter. Cette suspicion va te pousser à les espionner. Et toute interprétation sera dans ce filtre-là négatif. Naam. Et cette mauvaise suspicion, ce mauvais regard sur eux, les poussera à tomber dans la faute. Certaines personnes ne sont pas dans le mal, mais à force qu'elles soient accusées de mal, elles se laissent aller. Peut-être elles n'y ont même pas pensé au début. Mais à force de les soupçonner, à force de les accuser à tort et à travers, elles se mettent à perdre de leur pudeur, de leur retenue, de leur comportement, et se disent, vu qu'on dit ça de nous, ben on va le faire. Naam, quoi qu'il en soit, ce hadith nous montre les nobles caractères. C'est que le musulman a une bonne opinion de son frère, tant que ce dernier ne lui montre pas le contraire de cela. Le musulman a une bonne opinion de son frère, et il ne le suspecte pas, tant qu'il n'est pas, il n'a pas la preuve de cela. Et le lien entre ça et notre chapitre, c'est que avec les soupçons, tu ne seras plus jovial avec les gens, tu ne les fréquenteras plus, tu t'éloigneras d'eux. Et une des causes du mauvais climat, une des causes plutôt du mauvais lien relationnel, c'est l'éloignement. C'est l'éloignement. Lorsque les frères se visitent, lorsqu'ils se fréquentent, ils pensent du bien les uns les autres. Ils s'aiment davantage les uns les autres, ils veulent le bien les uns pour les autres. Mais quand ils prennent de la distance et ne se parlent pas, ne se saluent pas, ne se fréquentent pas, ils deviennent méfiants. Jusqu'à que certaines personnes pensent que tout le monde est mauvais sauf elle et ses meilleurs amis. Naam, il n'y a pas un savant pour elle qui est droit. Il n'y a pas un prédicateur pour elle qui est droit. Il n'y a pas un commerçant qui est droit. Il n'y a pas un vendeur qui est droit. Pour eux, tout le monde est des menteurs, tout le monde est des voleurs, tout le monde est... Subhanallah. Ils en arrivent à ne fréquenter personne, à s'éloigner. Ils arrivent à s'éloigner. Wal'iyadhu billah. On nous demande à Allah Azza wa Jal de nous guider vers les meilleurs comportements. Wa sallallahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La semaine prochaine, il n'y aura pas cours car je serai en voyage. Avec le décalage horaire, ce sera compliqué de donner le cours. Et peut-être que si Allah Azza wa Jal me facilite, j'enregistrerai le cours et il sera posté sur le site La Voix Droite. Naam, ceci est une éventualité, ça sera le chapitre Babu et Tabassum, le chapitre du sourire, et le suivant Babu Dhahik, le chapitre du rire. Ainsi, on comprend qu'en islam, Naam, bien que ce soit une religion de sérieux, c'est une religion où, de temps à autre, il y a le rire, et une religion dans laquelle il y a au quotidien le sourire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tout le bien dans ce bas monde. Et lorsqu'il nous fera mourir, Allahu a'lam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.